Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sophie Vanisch, qui est venue hier à Luc-en-Diois, dans le cadre des rencontres de Luc, donner une conférence qui avait pour titre « Qu'est-ce qu'un peuple révolutionnaire ?» Je n'ai pas envie nécessairement de rebondir sur sa conférence, qui était par ailleurs fort intéressante, qui a eu un public plutôt nombreux, puisque nous étions près d'une centaine, mais j'aurais souhaité plutôt, au cours de cet entretien, la faire réagir sur un certain nombre de questions, de citations, et qui vont nécessairement, de mon point de vue, en tous les cas, dans le sens de ce qu'elle a pu développer hier. Je vous signale que son intervention sera audible sur le site de Radio Diwa. Donc, je vais commencer par deux citations, l'une qui est d'un homme politique, qui nous dit que dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Et un sportif assez renommé, qui s'appelle Tony Parker, répond « Moi, je suis né en Belgique, mère hollandaise, père américain. Je suis la parfaite définition du fait qu'on peut être français en venant de n'importe où. » Alors Sophie Vanney, je voudrais savoir quel est votre sentiment sur ces deux citations et qu'est-ce que vous pouvez faire comme commentaire sur ce sujet ?
Alors, la première, c'est que le fait d'affirmer qu'être français, c'est se référer nécessairement au mythe d'origine gauloise, c'est régressif par rapport justement à l'imaginaire révolutionnaire qui avait récusé cet imaginaire gaulois. C'est conforme à l'imaginaire de la Troisième République qui a valorisé cet imaginaire gaulois. Et c'est régressif par rapport à la politique menée depuis qu'on a créé la cité de l'immigration, qui est maintenant le musée de l'immigration ou musée de la Porte Dorée, dont justement l'annonce dans la rue, celle qu'on peut voir quand on arrive, et tous nos ancêtres n'étaient pas gaulois. Donc l'affirmation qu'il y a une pluralité à la fois des origines et donc possibilité de se détacher du mythe. Car tout le monde sait que les frontières actuelles de la France n'ont pas grand-chose à voir avec la question des Gaulois et que la question en plus de l'identité et du nom français, ça a à voir avec un rapport aux lois et pas un rapport aux origines. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez monstrueux en fait dans cette affirmation parce que c'est extrêmement régressif et que ça conduit à affirmer qu'il ne faut pas tenir compte de l'histoire mais qu'il faut tenir compte que des mythes qui sont toujours pour fabriquer un écran entre la réalité vécue et celle qui est souhaitée par des imaginaires sociaux qui peuvent être soit progressistes, soit régressifs, et là il est clairement régressif. Alors en ce qui concerne Tony Parker, je dirais que c'est encore autre chose, c'est l'affirmation qu'un lieu comme la France est un lieu possible d'intégration et d'adhésion, tout en étant quand même quelqu'un qui, en ayant des origines européennes et américaines, n'est pas spécialement visé par le racisme contemporain, quand même, qui touche les gens issus de l'histoire coloniale et postcoloniale. Voilà. Donc je dirais que c'est important qu'il fasse témoignage du fait qu'il vient d'ailleurs, malgré tout, du point de vue national. Mais je dirais que voilà, ce qui serait probant dans la possibilité de produire du contre dans l'espace public supposerait quand même un autre interlocuteur pour pouvoir accuser ces fameux ancêtres gaulois.
Alors, si je peux poursuivre, il y a une deuxième partie à sa réflexion, et je demanderai également d'y réagir, si vous le souhaitez, c'est être français, c'est dans ton cœur, tu sais d'où tu viens, où tu as grandi. C'est pour ça que pour moi, ça a toujours été important de jouer pour l'équipe de France, là c'est un cas particulier, on est bien d'accord, parce que je suis très fier d'être français. Tu n'as pas besoin d'être né en France pour te considérer français, c'est à toi de le montrer avec tes actes, je pense, c'est ce que j'ai fait. cas est particulier, comme vous le dites. C'est vrai que par son expérience de sportif de haut niveau, il a pu, je dirais, démontrer quelque chose. Mais est-ce que cette deuxième partie de son intervention pourrait un peu répondre, aller dans le sens du fait qu'un étranger, malgré tout, de par son activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à partir du moment où elle est au sein, qu'elle s'est effectuée au sein d'une société, la société française doit être considérée à égalité que par rapport aux Français de souche, par exemple.
Je pense que la question qui est posée, c'est l'adhésion de cœur. Mais à quoi on adhère de cœur? Et qu'est-ce que ça veut dire de vibrer? Parce que finalement, le cœur, c'est le lieu où des émotions, c'est le siège des émotions, tel que c'est nommé. Et pourquoi on peut avoir des émotions pour la France ou pour le fait de vivre en France? Qu'est-ce qu'on aime dans ce pays? Et je crois que ce qui caractérise la spécificité de l'histoire française dans ce qu'elle a, à mon avis, de fort, à partie liée avec la question de la loi. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aimer la France quand elle défend effectivement une certaine conception des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas simplement un imaginaire, c'est un texte qui est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, on sait que la France est considérée comme un piètre acteur du point de vue de la défense des droits de l'homme et du citoyen. Pas simplement par les Français eux-mêmes, dans cette considération, mais par des institutions de défense des droits de l'homme et du citoyen. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui la France est aimable dans son apparence aujourd'hui telle qu'elle fonctionne? Je ne crois pas. Par contre, on peut adhérer à l'idée d'une France qui serait celle des droits de l'homme et du citoyen, mais il faudrait la faire revenir. Et du coup, il y a quelque chose de difficile quand on est étranger de savoir à quoi on adhère quand on adhère à ce nom français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est confus. C'est difficile d'être fier d'être français dans le contexte de l'état d'urgence, dans le contexte de la loi travail, dans le contexte pour des gens qui défendent les droits de l'homme et du citoyen.
Le travail comme monde commun a disparu. Prolétariat, usine, fabrication d'un produit issu d'un travail d'une communauté d'individus, développant un savoir, une pratique, une créativité. Savez-vous de qui est cette phrase?
Non, mais...
Jacques Rancière. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je crois pas. Je suis pas sûre de partager, mais je dirais que je suis pas de la même génération, donc je ne sais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Mais je ne suis pas convaincue qu'il y avait une communauté de travail dans les années 70, ni dans les années 60. Je pense que le travail était déjà en miettes, que le fordisme produit un travail en miettes. Et que les lieux du travail permettaient sans doute une socialisation plus forte que les lieux du travail actuels, mais ça demande à être vérifié parce que la socialisation par les outils contemporains est d'une autre nature, mais je ne crois pas qu'elle ne produise pas du commun. Mais le problème, c'est que les normes de ce commun sont différentes. Et donc, je ne suis pas totalement convaincue. Voilà. Je pense que c'est des mondes du travail différents. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de créativité aujourd'hui. Je crois qu'il y a une grande créativité aussi. Et en même temps, évidemment, que le monde n'est pas le même. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de virtualité et de segmentation, sans doute, aujourd'hui. Et du coup, les outils qui permettaient la politisation dans le monde des années 60 ou 70 ne sont plus adaptés pour notre monde commun aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un vrai monde commun. Quand on fréquente des jeunes gens, ils sont dans un vrai monde commun. Il n'est pas à l'échelle nationale.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait un rapport à l'idéologie à l'époque, puisque en fin de compte, les lieux, un certain nombre, si on évoque l'usine, ça date, je dirais, de l'après-guerre jusqu'à dans les années 70, mais les grands bassins tels que les bassins miniers, les bassins de métallurgie ont disparu. Est-ce qu'il n'y avait pas, je dirais, un commun qui était lié à une classe sociale et à une classe d'ouvriers, en l'occurrence, tel qu'il le décrit? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est qui fait référence justement à un monde qui a aujourd'hui disparu?
Mais que ce monde-là ait disparu, oui, mais que... que le travail comme monde commun, si c'est le prolétariat, l'usine, fabrication d'un produit, etc., ce qui raconte là, a disparu. Oui, mais je dirais, toutes sortes de choses disparaissent et d'autres se créent. Donc il y a question qui débouche sur la question d'une créativité. Je ne crois pas que l'usine Fordiste était le lieu d'une grande créativité. Donc je trouve pas, je suis pas d'accord en fait. Voilà, je trouve pas. Après, je ne trouve pas dans un rapport qui est un rapport où je ne l'ai pas vécu, mais je pense que la créativité, elle existe aussi aujourd'hui. Le problème, c'est quels sont les types d'institutions qu'il nous faut aujourd'hui inventer qui soient adéquates à ce type de créativité, qui est beaucoup plus polymorphe, hirsute, comme on veut. Enfin, je ne sais pas comment le nommer, mais je pense que les mondes communs existent. Je n'ai pas du tout le sentiment que les jeunes gens que je peux fréquenter, que ce soit quelques étudiants ou même mes enfants, qui maintenant sont quand même soit des grands adolescents, soit des tout jeunes adultes, soient hors monde commun. Il y a du monde commun. Voilà. Et il faut interroger ce qu'est notre monde commun actuel et pas simplement être dans la nostalgie de ce qui est perdu.
Le terme de créativité ne s'appliquait peut-être pas au sein du commun, mais peut-être au sein d'individus qui arrivaient peut-être sortant de ce contexte, arrivaient à développer des potentialités qu'un système peut-être fortement idéologisé leur permettait de faire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ?
Le problème, c'est que si c'est une affaire d'idéologie, le problème, c'est pas le travail, c'est quelle idéologie ? Et dans quelle mesure le lieu du travail était le lieu de cette idéologie ? Je pense que le lieu du travail est toujours le lieu de l'idéologie, que cette idéologie n'est pas une idéologie progressiste aujourd'hui la plupart du temps, mais ça se discute aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même, par exemple, dans les mondes virtuels, c'est là où il y a le plus de gens qui inventent des contres, voilà, et qui ont fabriqué toutes sortes d'outils, qui sont des outils importants et qui mériteraient d'être même encore davantage investis. Donc il y a quelque chose qui est un peu en arrêt devant un monde qui serait tellement différent, anthropologiquement différent, matériellement différent, qu'il y a une espèce de sentiment de vertige. Mais je pense qu'il faut sortir du vertige et affronter notre monde pour pouvoir le réidéologiser. Mais je ne crois pas que les individus d'aujourd'hui soient moins créatifs parce que ces mondes-là ont disparu. Je ne crois pas du tout.
Est-ce que vous ne pensez pas que la mondialisation, la disparition justement de ces différences idéologiques, l'individualisme, le consumérisme, ne concourt-il pas au sentiment que le peuple, le commun, n'est plus envisageable et appartient pour un certain nombre d'individus à un passé révolu ?
Je ne trouve pas. Les énoncés sur la question étaient des énoncés qui existaient aussi dans les années 70, c'est-à-dire que ce monde révolu qui existait dans les années 70 ou dans les années 60, ont produit la critique de l'individualisme, la critique du fordisme, qui était une critique de gauche. Et donc il y a quelque chose qui n'était pas plus satisfaisant. On critiquait déjà le consumérisme, la chanson de Boris Vian sur la complainte du progrès et l'achat de la tourniquette à faire la vinaigrette, ça date des années 50, enfin c'est pas une nouveauté. Donc le problème, il n'est pas là. Pour moi, c'est une illusion de croire que c'est fondamentalement différent. Le problème, c'est que cette critique, justement, n'a pas réussi à changer de champ d'analyse et de voir comment on pouvait être à la fois dans du commun et dans de la singularisation en même temps dans notre monde. Mais tout le travail qui a été fait pour analyser, par exemple, la question de la gratuité sur le web et de savoir s'il était à défendre ou pas cet accès gratuit, c'était la défense d'un monde commun qui est pensé comme tel pour énormément de gens qui le fabriquent. Je veux dire, on n'a jamais fabriqué autant d'outils gratuits par la mise en commun de compétences qui sont des compétences informatiques de très haut niveau pour fournir quelque chose comme par exemple Firefox sur l'ordinateur, qui est un outil qu'on appelle open source. L'idée même d'open source, c'est d'avoir à disposition des biens communs d'une telle technologie, mais ça n'existait pas avant. Donc je pense que cette nostalgie, ce rapport apocalyptique, parce qu'on a changé d'époque, est quelque chose de néfaste. Il faut essayer au contraire de voir comment cette pensée du commun, elle est structurante de nos pratiques au quotidien aujourd'hui. Et que donc il faut la soutenir de différentes manières. Mais même Wikipédia, c'est un objet du commun. Donc non, je trouve ça faux. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une période pour une partie réactionnaire, mais pas à cause de ça. Parce que ceux qui, justement, se sont emparés de cette modernité sont de droite et que les gens de gauche sont en arrêt devant.
Il y a un sociologue qui s'appelle Louis Chauvel qui a fait paraître un livre qui s'appelle « La spirale du déclassement ». Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez lu ce livre ?
Non.
Il y indique grossièrement que les classes moyennes issues du développement des Trente Glorieuses se paupérisent et qu'effectivement on a un différentiel de plus en plus conséquent entre les classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures. C'est-à-dire qu'il y a un émiettement total des classes moyennes, qui fait qu'on a des gens de plus en plus riches et de plus en plus pauvres. Ça, c'est pas nouveau, mais en fin de compte, à travers le bouquin, il tente à démontrer qu'il y a une sorte de fragilisation de ce qui faisait un petit peu depuis une quarantaine d'années le socle de la société française. Qu'est-ce que vous inspire cette réflexion ? Est-ce que vous la partagez ? Et est-ce que ce n'est pas aussi sensible dans l'évolution politique telle qu'elle évolue aujourd'hui ? Est-ce qu'un certain nombre de gens qui se trouvaient dans cette moyenne ne sont pas en train de dériver vers des tentations de droite, voire d'extrême droite ?
Si. Après, je pense qu'il y a moins d'écart à l'intérieur de la classe moyenne qu'entre la classe moyenne, même les plus élevées, et ceux qui sont vraiment riches, c'est-à-dire ceux qui possèdent l'outil capitaliste et financier, et qu'il y a quelque chose qui est incommensurable. C'est-à-dire qu'on est dans des écarts qui sont encore pensables avec des chiffres. Quand on est avec la grande finance et les paradis fiscaux, on est dans des choses qui sont même plus pensables. Donc il ne faut peut-être pas se tromper de lieu de concentration. Alors, de concentration de la richesse, je veux dire. Ensuite, sur la question de la paupérisation des classes, middle class, moyennes, c'est celles qui ont été les plus exposées au contrôle social, par l'impôt, par l'éducation, et fragilisées aussi par un système éducatif qui n'a pas toujours été capable de prendre en charge justement les changements de société. Et du coup, les enfants de cette classe moyenne en général n'accéderont pas à des emplois qui leur donneront les mêmes revenus. Et qu'effectivement, à force de ne pas s'occuper de ce que certains qualifiaient de petite bourgeoisie, cette petite bourgeoisie, c'est la cible par excellence, pas pour la première fois, de l'extrême droite et de la fascisation. Et donc le fait de ne pas l'avoir entendu, de ne pas avoir entendu sa détresse, etc., ça produira effectivement une adhésion, et ça produit déjà une adhésion. Mais le problème, c'est que cette détresse, elle est quand même liée à ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire un creusement des écarts, pas simplement à l'intérieur de la classe moyenne, mais surtout entre la classe moyenne et la classe vraiment riche. Et que le fait qu'il n'y ait pas de contrôle social, politique, sur les très riches, qui eux sont hors la loi, et en même temps dans l'impunité la plus totale, en faisant des choses qui sont absolument contraires au bien commun, produit un dégoût de cette classe moyenne. Et un dégoût, puisque pourquoi on est à ce point sous le collimateur de la sanction quand on appartient à cette petite classe moyenne qui a essayé de profiter des Trente Glorieuses pour s'élever dans la société, et qui, depuis qu'on est dans la crise pétrolière, en fait, a chuté. Voilà, ça, c'est un fait. Et ça aurait pu être récupéré si on avait un vrai partage et une vraie redistribution. Il n'y a pas de redistribution aujourd'hui. Il y a une accumulation dans des paradis fiscaux. Et donc la question centrale, c'est comment on répartit la richesse pour tout le monde, à l'intérieur de la classe moyenne, mais surtout bien au-delà, dans l'ensemble des classes sociales.
Puisque vous êtes hystérienne de la Révolution, est-ce que, on ne peut pas dire que les cadres sont à l'identique, bien entendu, le temps a passé et on ne va pas revenir au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que la Révolution française encore peut nous donner des outils de transformation, justement, de comment faire en sorte que ce monde, ces inégalités, je ne sais pas être bisounours en disant ça, quels sont les moyens qui s'offrent à nous en tant que citoyens, déjà en tant qu'individu, en tant qu'individu constitué à travers des groupes, des groupuscules, des associations, pour effectuer un effet, je dirais, de levier sur ce qui paraît pour certains ralentissement par rapport à quelque chose qui leur paraît insurmontable.
Bon, la question de la révolution, elle s'ouvre sur une question qui est notre question aussi, qui est la question de la dette et de l'endettement. Elle s'ouvre sur une question qui est conjointe, puisque pour payer cette dette, il va falloir trouver de l'argent, et donc elle s'ouvre sur la question du prélèvement, c'est-à-dire de l'impôt. Et donc, si aujourd'hui on veut faire levier, et si on veut utiliser la Révolution française comme point d'appui ou moment historique monumental qui donne du courage, eh ben, ça nous incite à nous concentrer sur cette question de l'impôt et de la dette, ce qui était parmi les éléments du programme de Hollande annoncé. En disant l'ennemi c'est la finance, donc la question de la dette, et en affirmant avec des économistes qu'un autre, une autre logique de l'impôt était possible. Les deux ont été récusés par l'effectivité du travail gouvernemental, mais les questions restent entières. Si on veut transformer quelque chose, il faut transformer la question de l'impôt à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et savoir qu'est-ce qu'on souhaite vraiment faire de la dette, en sachant que cette dette, aujourd'hui, nourrit des organismes ou des individus actionnaires, donc liés au fonctionnement de la finance internationale, et ça nourrit des comptes en banque dormants. Donc la richesse ne circulant plus, la possibilité de la redistribution se fait extrêmement ténue et fragile. Donc il y a vraiment quelque chose de possible à penser, mais pas nécessairement exactement dans les mêmes termes que ceux de la Révolution. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont riches ont le pouvoir. Dans la période révolutionnaire, ceux qui sont riches n'ont pas le pouvoir. Et ils affirment qu'ils ne donneront leur richesse que s'ils obtiennent le pouvoir. Donc on a des gens qui sont dans une dissociation entre ce que Bourdieu appelait le capital et le capital culturel face à des gens qui disposent du capital politique. Donc aujourd'hui, on constate que ceux qui disposent du capital disposent aussi en partie du capital culturel et font pression sur le politique. Donc ils disposent aussi du capital politique. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc ça suppose, pour pouvoir faire levier, hein, ça suppose qu'il y ait une capacité à unifier l'opinion sur la dette, sur la question de la dette. Or aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui trouvent cette dette inique. Il y a aussi un certain nombre de gens qui considèrent que la dette d'un État ressemble à la dette d'un père de famille dans sa maison et que quand on a des dettes, il faut les payer. Mais sauf qu'un État n'est pas une famille, ni un chef d'État, un père de famille, et que la question de la dette, c'est des questions qui sont celles du fonctionnement des États et que de tout temps, il y a eu annulation de dettes. À commencer par l'Allemagne, à qui on a annulé les dettes après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose là qui suppose d'être retravaillé, pour le coup, idéologiquement. C'est-à-dire en disant, mais qu'est-ce que c'est une dette? Elle profite à qui? Pourquoi elle a été contractée? Dans quelle mesure c'est inacceptable qu'elle engouffre toutes les richesses d'un État alors qu'on a besoin d'éduquer, qu'on a besoin de soigner, qu'on a besoin de redistribuer? Et donc, du coup, de faire de cette question de la dette la vraie question politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui s'annonce. Hein. Les programmes politiques en font un élément parmi d'autres, comme si elle n'était pas rectrice de l'ensemble. Or, elle est rectrice de l'ensemble.
Quels sont les enjeux des prochaines élections? Sur quoi va se jouer l'élection du futur président de la République?
Ce que je peux vous dire, sur quoi je trouverais ça légitime que ça se joue. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que visiblement, ça va se jouer sur des choses très bizarres. Je pense que ça doit se jouer sur le rapport qu'on a à la dette, à l'impôt, et à la circulation des hommes dans le monde, c'est-à-dire à la question de l'hospitalité. Voilà. Et qu'on ait un pays qui a à la fois les moyens de faire levier sur l'Europe, parce que c'est un des pays fondateurs de l'Europe, et donc sur la question de la dette, et de faire levier aussi sur l'Europe, sur la question de l'accueil, parce que si cet accueil ne se fait pas d'une manière organisée et, je dirais, légale, légitime, correcte, ça se fera sous une forme terrible. Parce que de toute manière, on est face à une situation politique du côté guerrier qui fera que le nombre de réfugiés ne vont pas se réduire et que viendra par-dessus, dans pas si longtemps que ça, la question des réfugiés écologiques, voilà, qui existe déjà, puisqu'il y a quand même déjà beaucoup de catastrophes naturelles. Donc il y a quelque chose à penser qui aujourd'hui n'est pas pensé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est envisagé, il n'y a pas une seule commission pour même décider des lieux qui pourraient être des lieux d'implantation de villes nouvelles, de villages nouveaux, de choses pour pouvoir accueillir. On ne va pas accueillir 500 personnes. Là, on accueille 500 personnes. Hein, la dernière fois que j'ai entendu le responsable de l'Office des migrations internationales à la radio, il expliquait qu'on allait accueillir 500 personnes, que c'était les seuls qu'on avait réussi à faire sortir de Grèce parce que c'était compliqué vu la configuration administrative, etc. Mais je veux dire, c'est ridicule 500 personnes. On est face à des millions de personnes qui vont avoir besoin de circuler dans des conditions extrêmes. Donc voilà, ça c'est un point où l'idée d'une fermeture des frontières, c'est en fait l'idée d'un ensauvagement. Et que si on veut rester civilisé, il faut penser la manière dont on ouvre nos frontières et dont on implante des nouveaux venus dans l'espace européen et donc dans l'espace français.
Pour conclure, est-ce que vous êtes optimiste ? Vos paroles le sont, mais est-ce que vous pensez que la société française partage votre optimisme et va dans les mois qui viennent prendre une direction telle que vous le souhaitez ou l'envisagez?
Je ne sais pas si mes paroles sont optimistes. Elles le sont peut-être dans la mesure où je ne dis pas que ce monde est incompréhensible, que rien n'est possible et que nous sommes totalement démunis à faire des propositions. Mais je n'ai pas l'illusion de croire qu'aujourd'hui, c'est ça qui va effectivement être porté dans les campagnes électorales. Ce qui va être porté, ça va être des choses tout à fait décevantes dans la mesure où il y a un émiettement des candidatures, où il n'y a pas d'organisation politique qui émerge, qui soit satisfaisante pour pouvoir faire face aux multiples trahisons qui ont été celles des partis politiques français, et qu'on a une extrême droite qui est extrêmement forte. Donc je suis plutôt pessimiste. Après, je dirais que mon rôle, c'est de dire on n'est pas face à de l'incompréhensible. Le monde est compréhensible et le monde est transformable. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire tout de suite.
Très bien, merci Sophie et certainement à une prochaine fois.
Merci à vous.
Interview. Ok, de belle.